Bonsoir Marielle Vazella.
Bonsoir.
Vous êtes du diocèse d'Agen et vous avez rejoint les responsables de la pastorale de la santé de la province Midi-Pyrénées, réunis à Lourdes pour 2 jours. Le travail est un peu un travail de relance, on va dire. Nous avons vécu, comme tout le monde, bien sûr, les confinements. Il y a eu des exigences qu'il a fallu respecter, des consignes sanitaires que tout le monde connaît. Et maintenant, il s'agit de reprendre un peu toutes les activités. Et une des activités qui nous incombe à tous, c'est celle aussi de lancer un appel pour avoir de nouveaux bénévoles, notamment pour les visiteurs de malades à domicile, les visiteurs de malades dans les EHPAD et dans les hôpitaux et cliniques. Avant cela, moi je vous invite à peut-être vous présenter et en disant ce que vous faites, on comprendra pourquoi vous êtes là.
Donc je suis aumônier de l'hôpital psychiatrique d'Agen à mi-temps et je suis formatrice à l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse à mi-temps. Dans ce cadre-là, je m'occupe de la formation des bénévoles et des aumôniers d'hôpitaux. Nous accompagnons la province et nous accompagnons la formation des personnes qui interviennent dans le cadre de la province, dans la pastorale de la santé depuis fort longtemps. Et cette session-là, je leur ai proposé de travailler 4 notions qui sont importantes pour constituer une équipe. C'est l'appel, le discernement, l'envoi et l'accompagnement. Il ne suffit pas d'être appelé et envoyé. Il faut aussi accompagner les personnes que nous envoyons sur le terrain. Nous savons que la mission de l'Église, parfois, est lourde. Elle demande un gros investissement et il est important de s'arrêter régulièrement pour relire cette mission. C'est dans ce cadre-là que les responsables des équipes accompagnent les bénévoles qu'ils, entre guillemets, embauchent à la vigne du Seigneur.
Ce matin et cet après-midi, nous avons beaucoup travaillé sur l'appel. Nous avons consacré quasiment la première journée à l'appel. Ce n'est pas le plus facile, l'appel, parce qu'il s'agit aussi à la fois de repérer les gens, de les accueillir. Alors comment on fait? Il suffit de dire à quelqu'un « tu me sembles doué, viens nous rejoindre ».
Alors ça peut se passer comme ça. L'appel, il peut venir soit de nous-mêmes, on rencontre des personnes et on sent dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, qu'elles seraient peut-être à l'aise auprès de personnes malades, âgées ou handicapées. Et parfois, c'est les personnes elles-mêmes qui entendent parler de cette mission de la pastorale de la santé qui viennent se présenter à nous. Alors c'est vrai qu'on aurait presque envie de n'appeler que des personnes qui, entre guillemets, aussi correspondent à nos besoins, correspondent à ce que nous attendons. On a parlé aujourd'hui d'être dans l'Église, d'être des priants, d'être des écoutants. Mais en même temps, on a conscience qu'on ne peut pas attendre des personnes parfaites, des personnes qui seraient tout de suite au top de leurs prestations, mais qu'on doit savoir aussi appeler des personnes et les accompagner dans un cheminement pour grandir dans leur mission et dans la foi. On a travaillé les personnalités des apôtres que Jésus avait choisis et on s'est aperçu qu'il avait choisi des personnes qui avaient une marge de progression assez importante. Voilà, il ne s'est pas contenté de prendre des personnes déjà convaincues ou pas forcément convaincues, mais au moins qui auraient déjà les critères nécessaires pour être de bons apôtres. Il a pris des personnes qui étaient de bonne volonté et avec qui il a cheminé pendant 3 ans, ça c'est important. Et du coup, elles ont pu grandir en sa présence. Voilà, de pareil pour nous, quand nous appelons des personnes comme bénévoles, nous devons aussi accepter qu'il y ait un chemin de croissance à vivre avec elles, et que c'est avec ce chemin de croissance qu'elles deviendront de meilleures, si on peut dire ça, bénévoles.
Voilà. Ça veut dire qu'appeler, c'est aussi s'engager soi-même.
Exactement. Et c'est ça un petit peu qui pourrait parfois pêcher dans notre Église. C'est un petit peu, on comble les trous, il y a besoin de bénévoles, on met des personnes et on oublie cette phase d'accompagnement qui fait que malheureusement, les gens s'épuisent et ne souhaitent pas renouveler l'apostolat qui leur a été confié en disant « ben non, moi ça y est, moi j'ai donné pour 3 ans, là où j'ai donné 6 ans, j'arrête ». Et on a beaucoup parlé aussi de la joie, que nous devions apprendre à témoigner de la joie de l'apostolat que nous vivons, et que cet appel à vivre auprès du Seigneur est une chance et non pas une corvée.
Appeler, c'est bien. Discerner, c'est aussi nécessaire.
C'est peut-être aussi un des aspects que l'Église n'a peut-être pas assez travaillé avec les laïcs qu'elle nomme en responsabilité de service. Le discernement, c'est quelque chose de particulier. Parfois, on ne s'autorise pas, en tant que responsable d'un service, à discerner. On ne se sent pas légitime. Parce qu'on a peut-être compris que le discernement, c'était se situer au-dessus de l'autre. Mais pas du tout. C'est se situer en frère aîné dans la foi, ou en frère aîné dans une mission. Et non pas du tout dire à l'autre « je sais mieux que toi » ou « je sais plus que toi ». Non, c'est vraiment « voilà ce que moi j'ai appris, voilà mon expérience, et je vais mettre mon expérience au service de ce que tu vis, pour voir avec toi si vraiment c'est là que tu seras le mieux au service du Seigneur. »
C'est ça, le frère aîné, c'est pas celui qui en sait plus, mais c'est celui qui a quelques pas d'avance, parce qu'il est aîné.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais on a vraiment à apprendre ce travail de discernement, et à se l'autoriser. Bien sûr, autorité ne veut pas dire écraser. Autorité, c'est permettre à l'autre de grandir et d'avancer. Et c'est là qu'on a travaillé aujourd'hui, et qu'on va essayer de se dire, comment discerner l'appel, comment discerner la place d'une personne dans notre Église aujourd'hui.
Après le discernement, l'envoi.
L'envoi, alors je vous ai dit ce matin en commençant qu'en général on est assez doué pour faire de belles célébrations d'envoi. On est peut-être parfois un peu plus frileux quand il s'agit de faire des lettres de mission. Nos évêques ont vraiment le sens de l'envoi en mission, mais parfois on oublie un petit peu cette lettre qui reste dans les ordinateurs ou dans les armoires, et on la fait pas toujours avec assez de sérieux. Mais ça, je crois que c'est aussi la mission des responsables diocésains, les laïcs engagés dans ces responsabilités, à rappeler toujours à notre Église que l'envoi en mission, c'est vraiment signifier que c'est pas notre histoire à nous, c'est pas notre affaire, c'est pas notre entreprise. C'est vraiment nous sommes envoyés pour une mission, pour un apostolat, et c'est ça qui est important. Donc il va falloir peut-être aussi acquérir un peu de rigueur dans nos lettres de mission.
Ayant lu pas mal de lettres et en ayant reçu moi-même pas mal aussi, je suis frappé par dans notre diocèse, par le fait que l'évêque exprime toujours sa confiance aussi. Envoyer en mission, c'est être confiant en la personne.
Tout à fait, oui. Je pense à la parole de Dieu, je compte sur toi, tu as du prix à mes yeux. Voilà, et vraiment, être appelé, c'est vraiment entendre cette parole, je compte sur toi. On disait ce matin que dès notre conception, le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Et vraiment, il compte sur nous parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut, à nous de le développer, de le découvrir et de le faire grandir.
Enfin, le dernier point, l'accompagnement.
L'accompagnement. Alors, on va beaucoup insister demain là-dessus, mais il me semble très important que l'accompagnement soit structuré. Et structuré concrètement, par des rendez-vous, avec des grilles, des questionnaires qui nous aident à faire le point, à faire relecture régulièrement de ce que nous vivons. C'est, nous-mêmes, en tant que responsables dans nos services, on doit être accompagnés. Mais aussi, ceux que nous avons envoyés en mission sur le terrain, à notre tour, de les accompagner. Et je crois qu'on a là aussi à avoir un peu plus de rigueur. Se fixer un rendez-vous, deux fois par an, une fois par an, faire le point, voir où on en est. Parfois aussi pour remettre en question l'apostolat. Parce que pendant un temps, on a vécu ce lieu d'investissement avec joie, et puis pour des raisons, l'une ou l'autre, on peut se dire, tiens, peut-être que maintenant, il faudrait que je change. Voilà, parce que ma vie a changé. Voilà. Donc, ne pas avoir peur de ces accompagnements et ne pas avoir peur que la personne dise, c'est plus mon lieu. Mais se réjouir que la personne ait découvert des choses et qu'elle puisse dire, ben, je vais trouver un autre lieu. La mission continue, mais ailleurs.
Ce temps que nous avons vécu avec la Covid-19 nous a mis, et tout particulièrement les acteurs de la pastorale de la santé, au cœur du problème, vraiment. Vous, en tant que formatrice à Toulouse, vous avez continué à accompagner, alors pas toujours en présentiel, souvent en distanciel, on a appris de nouveaux mots comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous en retirez de la réaction des gens que vous rencontriez ?
Alors, il y a eu deux styles de réaction, des personnes qui se sont dit, on ne peut pas faire comme on faisait d'habitude, on va inventer de nouvelles manières d'être présent, de nouvelles manières de signifier le Christ dans les lieux de soins où on ne peut plus rentrer. Donc il y a eu beaucoup d'envoyer des lettres, faire passer des feuilles de messe, téléphoner. Enfin, moi, pour ma part, je suis en hôpital psychiatrique, je passais 2 à 3 heures par jour au téléphone avec les patients. Voilà, j'avais l'autorisation de leur téléphoner. Donc, on a inventé de nouvelles choses. Et on peut s'en réjouir. D'ailleurs, l'aumônerie nationale a fait un petit peu une compilation de tout ce qui avait été inventé en France en raison du Covid. Malheureusement, d'autres ont eu l'impression que l'Église était mise de côté, pas prise en considération, que la présence de l'Église auprès des personnes malades était bafouée à l'occasion du Covid. Je crois simplement que tout le monde était très inquiet de cette situation. Et je me rappelle une des directrices de l'hôpital où je travaille qui me dit « C'est pas qu'on veut pas que vous veniez, c'est qu'on a tellement peur de ce qui peut se passer et de la peur de pas pouvoir gérer ce qui va se passer. On sait qu'on aurait besoin que vous soyez là, mais pour l'instant, on ne sait pas comment faire. » Je crois qu'il fallait l'entendre comme ça plutôt que comme « on a été exprès mis à l'écart ». Voilà, il n'y avait pas de théorie du complot c'est là-dessus. C'était simplement que tout le monde, y compris le milieu soignant, est un peu, s'est trouvé confronté à une situation inédite et a eu du mal à répondre, mais y compris pour eux-mêmes, puisque un médecin me disait l'autre jour, on a eu des ordres et des contre-ordres en permanence, parfois des choses qui n'avaient ni queue ni tête, tout ça parce qu'on ne savait pas où on allait et on était terrorisés.
Et puis, donc, la prudence était quelque chose d'essentiel, mais ça a été aussi porteur de leçons, puisque vous êtes en train de revoir un peu la formation, et un nouveau module de formation est en train d'être concocté. Vous y aviez sans doute réfléchi avant, mais peut-être que la COVID vous a aidé.
Alors, depuis quelques années, dans l'Église, on a compris, et en particulier à l'hôpital, on a un peu cette spécificité à l'hôpital, qu'on est à la fois dans le monde public et dans l'Église, en aumônerie d'hôpital. Le monde du soin est un monde exigeant au niveau formation, et on a besoin aussi, nous, d'être plus exigeants au niveau formation. Dans ce cadre-là, et puis aussi pour d'autres domaines dans l'Église, les 5 instituts catholiques de France ont porté un projet d'inscrire au catalogue national de la formation professionnelle le titre qu'on appelle « chargé de mission pastorale » qui propose aussi la formation pour les aumôniers. Ça permet d'acquérir des compétences professionnelles qui sont importantes en tant qu'aumôniers, mais qui pourront aussi être négociées un jour sur le marché du travail si on en a besoin. Entre autres, il y a la gestion d'équipe, la gestion de projet, l'accompagnement. C'est très important que nous prenions conscience dans l'Église que se professionnaliser, c'est une chance et ce n'est pas la perte de notre identité. On peut être un bon aumônier professionnel dans la foi, j'ai envie de dire.
Voilà, la foi, c'est pas que de la bonne volonté.
Exactement.
C'est aussi, si on veut l'annoncer d'une manière... La rencontre qui se déroule à Lourdes, qu'est-ce que vous en pensez pour la première journée ?
Ah, je suis très, très contente que vraiment tout le monde soit rentré dans la démarche. Je sens que vous avez eu peur que je vous fasse trop travailler, mais finalement, voilà, les gens rentrent dans la démarche. Et puis, mon souci, c'était de repartir de cette session avec des choses concrètes. Donc, il y aura des documents concrets sur les critères d'appel, sur les grilles d'entretien, sur comment faire des grilles de relecture et comment accompagner. Donc vraiment, c'est pas simplement se torturer l'esprit, c'est vraiment concrètement, je repars avec des documents qui vont m'aider dans ma mission de responsable dans mon diocèse.
Voilà, alors on peut inviter les auditeurs qui seraient intéressés par cette mission, qui seraient intéressés par visiter les malades. Visiter les malades, ce n'est pas simplement porter la communion. C'est un aspect très particulier, mais c'est d'abord rendre visite à une personne humaine qui est dans une situation de faiblesse ou parfois de détresse et pouvoir lui dire... À notre tour, tu as du prix à mes yeux, c'est ça. Et s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par ce travail, ben ils peuvent prendre contact avec le responsable de la pastorale de la santé de leur diocèse, qui se fera un plaisir de répondre à leurs questions et éventuellement de vous donner les coordonnées. Merci beaucoup, Marie-Elle Vazella, pour ce temps. On vous a pris juste un moment de break. Bonne continuation.
Merci à vous.
Au revoir.